Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « Le fondement de la rédemption ». Nous en sommes à l'étude numéro 11 et le titre pour aujourd'hui sera « Le témoignage prophétique, les prophètes de Dieu ». Premièrement, les prophètes sont des porte-paroles. Ce sont des interprètes, des commentateurs, des exégètes. Ils sont comme la bouche de Dieu, selon Jérémie chapitre 15, verset 19. Ils sont avec Dieu dans une relation similaire à celle d'Aaron par rapport à Moïse. Ton frère Aaron, est-il dit, sera ton prophète. Exode chapitre 7, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur anime les prophètes. Selon la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Ainsi déposées ces paroles en leur bouche, Deutéronome 18, verset 18, et Jérémie, chapitre 1, verset 9, j'ai dit ainsi déposer ces paroles en leur bouche, parle à travers eux, 2 Samuel, chapitre 23, verset 2, en sorte que leur message soit les oracles de Dieu, selon la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 11, et leur langue, la plume d'un habile écrivain, psaume 45, verset 2. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas moins de 3808 fois l'affirmation « Ainsi parle l'Éternel ». Deuxièmement, les prophètes sont des voyants. Ils doivent avoir vu leur message avant de pouvoir le délivrer. C'est pour cela que ce message est appelé une vision. Ésaïe chapitre 1 verset 1, alors même que ce message serait complètement ou presque complètement dépourvu de vision au sens où s'emploie généralement ce mot. Il y a pour le prophète plusieurs moyens de voir. La perception du message peut lui être donnée par l'intermédiaire de sens extérieur. Le prophète demeure en son corps, 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 et 3, et il entend et voit avec ses sens corporels. Nombre, chapitre 12, verset 8. Moïse voit et entend au buisson ardent. Exode, chapitre 3. Samuel entend, mais ne voit rien. 1 Samuel, chapitre 3. Daniel voit, mais il n'entend rien. Daniel, chapitre 5, verset 25. Abraham voit et il entend. Genèse, chapitre 18. Le message peut être perçu par les sens intérieurs. Le prophète est dans l'esprit. Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Littéralement, une condition de l'extase ou un ravissement. Je répète, le prophète est dans l'esprit, une condition de l'extase ou ravissement. On a dit que c'était Apocalypse chapitre 1 verset 10 qui le confirme. Ses yeux sont fermés aux choses extérieures, mais ils sont ouverts intérieurement. Nombre, chapitre 24, verset 3 et le verset 15. Intérieurement, il voit ou entend. C'est par le moyen de cette vue intérieure qu'il reçoit une révélation picturale ou une vision, mais celle-ci a souvent besoin d'être expliquée. Amos, chapitre 7, verset 7, Zacharie, chapitre 1, verset 9, et chapitre 4, verset 4, ensuite Daniel, chapitre 8, verset 15 et 16. Par audition intérieure, il atteint à la révélation verbale qui lui impartit plus directement la connaissance. La perception peut avoir pour agent une exaltation des activités naturelles de l'esprit humain. Dans ce cas, Dieu intensifie les rêves et les emploie comme porteurs du message. Voyez par exemple Pharaon, Nebuchadnezzar ou Joseph. Il peut aussi intensifier les activités de l'entendement et en hausser le langage vers les auteurs de l'inspiration, comme ce fut le cas par exemple des cantiques de louange d'Anne dans 1 Samuel chapitre 2, de Marie, Saint Luc chapitre 1 et de Zacharie, Saint Luc chapitre 1. Ainsi donc, Dieu a parlé par les prophètes à plusieurs reprises et de plusieurs manières. La loi de la perspective prophétique revêt une signification toute spéciale qu'il nous faut souligner ici. En dehors du cadre de la création, il n'y a pas de limitation de temps. Aux yeux de l'Éternel, tout est au présent. Le prophète, sortant de sa sphère temporelle pour aller en quelque sorte à la rencontre de la sphère divine, pénètre en même temps dans la sphère des choses supra-temporelles et se tient ainsi au-dessus de toute conception de temps, en sa qualité de porte-parole de Dieu. Il peut ainsi voir l'avenir, non seulement comme futur, par exemple, Ésaïe chapitre 9, verset 7, mais en même temps comme présent, le verset 6 de Ésaïe chapitre 9, ou même comme étant du passé, encore le verset 6. Et notez spécialement Ésaïe chapitre 53. La prophétie, assez souvent, groupe des événements qui, dans le temps, sont pourtant séparés les unes des autres. Bien que solidement ancrée à la chronologie des faits, elle survole aisément toute une période intermédiaire intercalée entre le présent et l'avenir, alors même que cette période embrasserait des milliers d'années. Ainsi se présente la perspective prophétique. C'est à la fois ce qui fait la supériorité et la faiblesse, la perfection et l'imperfection du prophète. Les événements de l'avenir immédiat s'associent dans son optique aux événements les plus éloignés, comme les pics des montagnes se fondent en une seule chaîne aux yeux du promeneur. Ainsi, il liera le retour de Juda arraché à Babylone au rassemblement d'Israël à la fin des temps. Ésaïe 49, versets 8 à 12, Ésaïe 43, versets 5 et 7, et toujours Ésaïe, chapitre 27, versets 12 et 13. La venue du Christ en son humilité et à son apparition en gloire. Et là, notez Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. Ces vérités sont vues comme en un seul tableau, la première étant le type de la seconde. Il apparaît clairement que 2000 ans peuvent séparer l'une de l'autre. Tandis que les prophètes poursuivaient leur investigation en vue de connaître les temps et les moments, ils connurent par une révélation spéciale que le manque de compréhension n'était pas un obstacle, leur service étant destiné non pas à eux-mêmes, mais aux générations des siècles à venir. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. Le prophète voit ainsi jusqu'à 3 ou 4 sommets, et cela les uns derrière les autres. Il peut donc en même temps saisir que des vallées les séparent, mais il ignore quelles en peuvent être la largeur et les détails. Sans doute comprend-il que les souffrances du Messie doivent précéder sa gloire. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 11, et Saint Luc, chapitre 24, versets 25 et 26. Et que entre les deux doit donc s'étendre un intervalle qu'il annonce, donc tel que la souffrance et tel que la gloire. Mais la durée et la signification profonde de cet intervalle, l'édification de l'Église ainsi que le corps du Christ, car l'Église est le corps du Christ, cela reste pour lui un secret. Éphésiens chapitre 3, versets 2 à 10. Notez également Colossiens chapitre 1, verset 26. Et Saint Matthieu chapitre 13, verset 17. Les prophètes annoncent les temps de la fin, tels que le royaume messianique, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ésaïe 65, verset 17, et chapitre 66, verset 22. Mais que le royaume soit en fait composé de deux sections, l'une sur notre vieille terre, selon Apocalypse chapitre 20, verset 2, et les versets 4 à 7, l'autre sur la nouvelle, Apocalypse chapitre 21, verset 1, ainsi que verset 5 du chapitre 22 de Apocalypse. Je répète donc, vous avez Apocalypse 21, 1 et Apocalypse 22, 5. Et qu'entre les deux prennent place le jugement, ainsi que la destruction et la glorification de notre planète. Apocalypse chapitre 20, verset 9 jusqu'au verset 15. Cela, les prophètes ne l'ont pas vu. C'est tellement vrai que l'image du millénium se mélange étroitement et se confond avec celle de la nouvelle création. On comprend donc mieux ainsi la parole du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. quand il a dit « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez maintenant et ne l'ont pas vu. Vous avez aimé entendre, ils auraient aimé entendre ce que, par exemple, vous entendez maintenant. Et pourtant, ils ne l'ont pas entendu. Mais par contre, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent. » Saint Matthieu chapitre 13, verset 17 et le verset 16. Il faudrait plutôt dire Saint Matthieu chapitre 13, verset 16 et 17. Troisièmement, les prophètes sont des sentinelles. De leur point de vue élevé, ils ont une vue sur le présent. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez donc attentifs au son de la trompette. Jérémie chapitre 6, verset 17. Homme de l'histoire, il parle un langage adapté historiquement aux hommes de cette histoire. Comme membre de leur génération, il parle à leurs contemporains avec pour point de départ la situation du moment. Ils sont donc ainsi à la fois des hommes qui sont chargés d'avertir le peuple, d'exhorter même la nation, Ésaïe chapitre 3, verset 17, et ainsi de veiller. Ils sont donc comme la conscience, même de la communauté, et comme tels, ils sont ses gardiens et ses bergers. Zacharie, chapitre 10, versets 2 et 3, chapitre 11, verset 3, et le verset 16 et 17, et ajouté Ézéchiel, chapitre 34, verset 2. Comme sentinelles, ils ont également les yeux tournés vers l'avenir et ils voient le jugement. Ésaïe 21, verset 5 à 12. Et ils voient aussi la consommation des choses. La voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Ésaïe 52, verset 8, chapitre 62, verset 6 et 7. Ils sont donc, pour le peuple, des conseillers, ils sont la conscience, ils sont les yeux et les oreilles. Et quatrièmement, les prophètes sont des hommes de Dieu. 1 roi, chapitre 13, verset 1. Ils sont des personnalités consacrées à Dieu. Ce sont de saints hommes. 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Saint Matthieu, chapitre 13, verset 17. Des prophètes non sanctifiés sont une exception et ne demeurent pas serviteurs de Dieu bien longtemps. Dieu, en effet, désire le cœur et non seulement la bouche. Il désire l'ouvrier et non l'œuvre seulement. Je serai sanctifié par ceux qui s'approche de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Lévitique chapitre 10, verset 3, ainsi que Ésaïe chapitre 52, verset 11. Hommes de Dieu, ils n'en ont pas moins des personnalités individuelles. Dieu ne veut pas mettre de côté la nature humaine, mais il désire la transfigurer. Il ne veut pas l'éliminer, mais l'employer à son service. Il désire non pas des esclaves, mais non, mais il désire des amis. Saint Jean, chapitre 15, verset 15. Et vous pouvez ajouter Amos, chapitre 3, verset 7. Non pas seulement des outils, mais il désire des hommes. Chers amis, sachez que quand la Bible indique l'homme, cela suppose l'homme et la femme qui en font qu'un seul. Du reste, l'expérience m'a démontré que dans les assemblées, les églises, aujourd'hui, à notre époque, comme il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes en général, eh bien, il y a des femmes qui prophétisent, qui interprètent, il y a des femmes qui aident d'une façon merveilleuse le corps de Christ. Mais, comme je vous dis, parce que l'homme d'aujourd'hui se croit tellement orgueilleux et suffisant que pourquoi aller vers les momiers, comme ils disent? Enfin, c'est un point de vue un peu malheureux. Donc, chers amis, nous aurons ainsi le langage pittoresque d'Amos, le berger. Notez Amos, chapitre 7, verset 14, chapitre 2, verset 13, et le chapitre 3, verset 4 à 6. Les prophéties nationales du ministre d'État, telles que, rappelez-vous, Daniel, et notez Daniel, chapitre 2, verset 4 à 7, et toujours Daniel, chapitre 7, verset 8 et 11, Daniel les invitait, il faisait des invitations réitérées à construire le temple. Il demandait qu'on reconstruise le temple, et il disait de la bouche du sacrificateur Zacharie, ou par la bouche du sacrificateur Zacharie. Il donnait les descriptions du service sacerdotal futur d'Ézéchiel, un autre sacrificateur. Ézéchiel chapitre 1 verset 3. Et vous pouvez ajouter Ézéchiel toujours chapitre 1, on a dit le verset 3, mais vous pouvez ajouter le chapitre 40 jusqu'au chapitre 48. Il y a là beaucoup à comprendre. En ce qui concerne les divers tempéraments et les divers caractères de chacun, nous trouverons le langage percutant des bouillants tels que Amos et Ésaïe. Vous trouverez le style plaintif et affligé des mélancoliques tels que Osée et Jérémie. Vous trouverez la poésie psalmodiante de l'artiste Habacuc, chapitre 3. Parfois même, le nom du prophète est comme une signature ou un mot d'ordre qui souligne le message. L'évangéliste de l'Ancienne Alliance a pour nom Ésaïe, qui signifie « Yahvé donne le salut ». Le Moïse de la Restauration se nomme Ézéchiel, c'est-à-dire « Dieu rend fort. Daniel, le prophète de l'histoire mondiale et du jugement du monde, se nomme Dieu et juge. Leur message, bien que venant de Dieu, est cependant très souvent conditionné par les affaires contemporaines. Ensuite, le prophète parle de la détresse assyrienne, et cela en même temps que du grand Emmanuel. Ésaïe chapitre 7 jusqu'au chapitre 12 et Saint Matthieu chapitre 1 verset 23. Et cela de l'Exode hors d'Égypte, comme également du deuil de Rama, et par la même occasion de l'enfance du Messie. Là, on peut noter Osée, chapitre 11, verset 1, Saint Matthieu, chapitre 2, verset 15, Jérémie, 31, verset 15, et Saint Matthieu, chapitre 2, verset 17 et 18. Les prophètes parlent du retour de Babylone, tandis qu'ils annoncent simultanément le rassemblement dernier d'Israël au temps encore bien lointain du royaume de paix. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 16. Lorsqu'ils parlent de ce royaume à venir des temps de la fin, c'est déjà la gloire de la nouvelle terre qu'ils dépeignent. Ésaïe 65, verset 17, chapitre 66, verset 22, chapitre 54, verset 11 et 12. Et vous pouvez ajouter Apocalypse, chapitre 21, verset 1, et les versets 18 à 21 de Apocalypse. Ainsi, les faits immédiats qui font l'objet de leurs prophéties sont eux-mêmes des prophéties qui, lorsqu'elles s'accompliront, ne seront encore que l'ombre et les gages de la rédemption et auront besoin d'être elles-mêmes pleinement accomplies. Tout cela met en lumière l'ancrage historique du message prophétique. Et dans cette optique, on peut comprendre sans peine que les prophéties relatives au royaume d'Israël soient fréquemment aussi des prédictions relatives à la période de l'Église. Ceci est la clé qui permet de comprendre pourquoi le Nouveau Testament applique spirituellement à l'âge de l'Église présente certaines prophéties de l'Ancien Testament en référence manifeste dans la pensée des prophètes à Israël et au temps futur. Par exemple, notez Romains chapitre 15 verset 12 et Ésaïe chapitre 11 verset 10, ainsi que Romains chapitre 9 verset 25 et 26, Actes des apôtres chapitre 2 verset 16 jusqu'au verset 21 et la première épître de Pierre chapitre 2 verset 9. Rien n'en est ôté pour autant à leur future application littérale. Romains 11 verset 29. Il est à noter également que les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'elles présentent le royaume messianique glorieux offert à notre vieille terre, sont en somme en même temps des prophéties typologiques en ce qu'elle vise, par la même occasion, les conditions finales de la nouvelle création. S'il n'en était pas ainsi, nous aurions le droit de nous trouver confus du fait que toutes les promesses vétérotestamentaires relatives au royaume ne se rapporteraient en fait que à une très courte période de 1000 ans, sans rien dire du but final et réel de l'histoire du salut. Non, la prophétie de l'Ancien Testament a comme noyau réel les vérités relatives à la nouvelle terre et dont le royaume messianique, cette première portion du royaume de Dieu à venir, n'est que l'image, n'est que l'introduction et l'approche. Notez Ésaïe, chapitre 65, versets 17 à 25, et le chapitre 66, verset 22. Chers amis, quel est le message prophétique? C'est l'Esprit du Christ qui est la source de connaissance, qui est la source de force de toute prophétie. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 11, et deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Christ constitue non seulement le but et le contenu de toute prophétie, mais encore son origine et son énergie inhérente. Dans les prophètes et par eux, Christ, le Logos, parlait de lui-même. Le Logos parle de la personne et de l'œuvre du Messie, en sorte que les prophètes parlaient et agissaient au Saint-Nom du Christ à venir. La prophétie complète ainsi l'exercice de sa vocation. Premièrement, elle illumine le passé, spécialement en tant qu'écrit historique. Deuxièmement, elle juge le présent, surtout en sa qualité d'exhortation et d'appel à la repentance. Troisièmement, elle prédit l'avenir, en particulier comme avertissement et comme consolation, à savoir le jugement d'Israël, le jugement des nations du monde, la conversion d'Israël, la conversion des nations, l'apparition du Messie et l'instauration de son royaume. Donc, premièrement, la prophétie illumine le passé. En tant que porte-parole et bouche de Dieu, le prophète n'est pas seulement prédiseur de ce qui vient, mais encore, il est proclamateur du jugement divin sur le passé et sur le présent. À ce titre, il a, au nombre de ses devoirs essentiels, la rédaction de l'histoire à la lumière d'en haut, Samuel, Nathan et Gad écrivirent chacun une chronique de la vie de David. 1 Chronique, chapitre 29, verset 29. Et c'est pour cette raison que dans la Bible hébraïque, les livres historiques sont classés parmi les prophètes. Par ailleurs, la rédaction israélite de l'histoire et d'un mode original. C'est moins une présentation théorique de l'histoire qu'une instruction pratique par l'histoire. Les images du passé sont des miroirs pour le présent. La parole de ce temps-là parle aujourd'hui. Les écrivains prophétiques sont donc libres de toute coloration nationaliste de l'histoire. Même pour ce qui est des plus grands héros nationaux, leur péché et leur chute sont mentionnés sans fard ni atténuation quelconque. Luther, le fameux Luther, disait que l'historien doit être un excellent homme, mais doit posséder un cœur de lion pour écrire la vérité avec courage. Ils n'y introduisent ni légendes extatiques de saints, ni adoration de héros déifiés. Ils considèrent le héros uniquement comme un instrument entre les mains de Dieu. Par exemple, Cyrus, notez Ésaïe 45, verset 1. Cyrus est comme le libérateur de la nation et suscité par le Seigneur. Notez Juges, chapitre 3, verset 9. Deux Rois, chapitre 13, verset 5. Et Néhémie, chapitre 9, verset 27. Ils sont assez candides pour mentionner ce qui est bon chez les plus mauvais et assez honnêtes pour ne pas garder le silence sur les actions mauvaises des meilleurs. Pour les méchants, par exemple, nous avons la repentance d'Achab. Notez 1 Roi, chapitre 21, versets 27 à 29. Pour les fautes des meilleurs, le demi-mensonge d'Abraham, l'impatience de Moïse, l'adultère de David, l'idolâtrie de Salomon, le découragement également du fameux Élie. Personne pourrait penser que Élie avait un moment donné avoir pu avoir du découragement. Deuxièmement, nous avons le jugement du présent. Loin d'être le produit direct de la mentalité juive, l'Ancien Testament lutte contre la manière de vivre des Juifs. Les prophètes, loin d'épargner les péchés du peuple, les dénonce avec force. Ainsi se trouve stigmatisé Ésaïe chapitre 58, verset 1, avarice et rapacité, Ésaïe chapitre 5, verset 8, Amos. Vous pouvez donc noter également Amos chapitre 6, verset 4 à 6, et Michée chapitre 2, verset 2. Donc, l'exploitation, ça a toujours existé, l'exploitation du pauvre, et vous verrez que cela est démontré dans Ésaïe, chapitre 1, verset 17. L'exploitation du pauvre est expliquée aussi dans Michée, chapitre 3, verset 2 et 3, dans Amos, chapitre 2, verset 7, chapitre 4, verset 1, chapitre 5, verset 11, toujours Amos, chapitre 8, verset 4 à 6. l'oppression des veuves et des orphelins, notez Ésaïe chapitre 10 verset 2 et Jérémie chapitre 5 verset 28, la corruption dans les procès, notez Ésaïe chapitre 1 verset 23 ainsi que le chapitre 59 verset 4, la tromperie en affaires, même les poids des diverses choses qui étaient à vendre étaient souvent totalement faux. Donc, on en ajoutait pour pouvoir gagner davantage au poids. Notez Michée, chapitre 6, verset 11, et Ézéchiel 45, verset 10 à 12. Nous avons l'orgueil et la vanité. Ésaïe chapitre 2 verset 12 à 17, chapitre 3 verset 16 à 24. Nous avons l'idolâtrie et les coutumes étrangères. Ézéchiel chapitre 8, Osée chapitre 7 verset 11, chapitre 5 verset 13, toujours Osée chapitre 11 verset 2 et Ésaïe chapitre 2 verset 6. Nous avons la fausse piété. Et comment ? Ésaïe 58, versets 2 et 3, Jérémie chapitre 7, verset 4, à nouveau Osée, chapitre 7, verset 14, Michée, chapitre 3, verset 11. Nous avons les propres justes ou la propre justice. Notez Malachie, chapitre 1, verset 6, oui, la propre justice. Toujours Malachie, chapitre 2, verset 17, et chapitre 3, verset 13. Ils dépeignent le peuple comme étant infidèle. Jérémie, chapitre 3, verset 8 à 11. Son encens comme étant une abomination. Ses sacrifices comme autant de meurtres et ses offrandes comme du sang de porc. C'est très grave. Ésaïe chapitre 1 verset 13, chapitre 66 verset 3. Le cœur d'Israël est de pierre. Ézéchiel 36 verset 26. Ses mains sont pleines de sang. Ésaïe, chapitre 1, verset 15. Sa langue est pleine d'un venin de vipère. Psaume 140, verset 3. Jérusalem est une prostituée, nous est-il dit dans Ésaïe, chapitre 1, verset 21, et Ézéchiel, chapitre 16, verset 23, ajouté Osée, chapitre 1, verset 2 et 3. La nation est même comme Sodome et Gomorre. Ésaïe, chapitre 1, verset 10 et Ézéchiel, chapitre 16, verset 46. Le meilleur parmi eux est comme une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Michée, chapitre 7, verset 4, et Exode, chapitre 3, verset 2. Parlant du peuple d'Israël de son temps, Ésaïe ajoutait « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. » Ésaïe, chapitre 1, verset 4. Finalement, après des siècles de patience, Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament, parlant de Jérusalem, déclare « Cette ville excite ma colère et ma fureur depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour. » Jérémie 32, verset 31. En leur qualité de prophète, il n'était pas au service de la nation, mais au service d'un royaume divin, prophète non pas de la foule, mais de l'esprit, aussi bien que vrai patriote, ils furent considérés par les masses un peu comme des étrangers. Ils furent trouvés trop peu juifs ou pessimistes et obscurantistes. 1 Roi chapitre 18 verset 17, même comme ennemis de la patrie. 1 Roi chapitre 21 verset 20, et parfois même en étant traité de traître, Jérémie 37, versets 13 et 14. Ils furent donc haïs et méprisés. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 16. Certains ont été emprisonnés, Jérémie 38, verset 28. Abandonnés aux dents des lions, comme Daniel, lapidés, sciés ou tués, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, et pourtant le monde n'était pas digne d'eux. Oh non ! Hébreux chapitre 11, versets 37 et 38. Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament, dit à Ézéchiel, « Tu as auprès de toi des ronces et des épines, et tu habites avec des scorpions, une famille de rebelles. » Ézéchiel chapitre 2 verset 6. « Ce n'est pas à travers, mais en dépit des hommes, que Dieu triomphera un jour. » L'Ancien Testament n'est pas le livre de la religion nationale des Juifs, adapté à leur caractère national, mais c'est le livre de Dieu et de sa révélation. Si Dieu s'est servi d'un peuple pris du sein des hommes pour être le gardien de sa révélation, ce n'est certes pas à cause d'une quelconque supériorité, mais afin que le contraste de la dureté de leur cœur avec son amour, de leur hostilité à son endroit avec sa miséricorde, fasse beaucoup mieux apparaître la solennité de ses jugements et la profondeur de sa grâce. Actes chapitre 7 verset 51, Saint Luc chapitre 4 verset 25 à 27, Saint Matthieu chapitre 8 verset 10, chapitre 11 verset 21 et le verset 23, chapitre 12 verset 42, Romains chapitre 2 verset 24. L'histoire d'Israël est donc une leçon de choses instructives présentée sur la scène publique de l'histoire du monde, un exemple et un avertissement pour toutes les nations. C'est un miroir pour chaque individu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ne soyons pas pharisiens, les fornicateurs et les adultères, les lâches et les menteurs, les parjures et les meurtriers sont loin, très loin d'être le lot exclusif du peuple juif. Car de tout temps, il y en a eu parmi tous les peuples et l'avenir en donnera de nouveaux exemples. Cependant, l'Ancien Testament ne se propose pas d'être seulement le livre de l'histoire juive ou une collection de pieux récits. Il se veut surtout le témoignage du Saint-Esprit au péché des hommes et au péché des hommes de tout homme et à la grâce du Dieu qui pardonne aux pécheurs repentants. Donc, pour notre propre salut et notre propre bénédiction, il désire nous raconter comment lâche et menteur, parjure, meurtrier et autres pécheurs semblables ont été arrêtés par l'appel de Dieu et sont devenus, oh oui, sont devenus des vies nouvelles dans les chemins de Dieu. Tel est aussi le but des histoires choquantes de l'Ancien Testament. Précisément, la brutalité prophétique de ces récits manifeste l'incorruptibilité, l'objectivité et la vérité du tout. Et à cause de cela, la Sainte Bible est le livre de l'humanité, étant la peinture de l'humanité. Mais parce que cette image de l'humanité est vraie et réaliste, elle est choquante. Psaume 14, versets 1 à 3. En vérité, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu, nous est-il dit dans Romains chapitre 3, versets 22 et 23. Où est alors le sujet de se glorifier? Il est absolument exclu. Romains chapitre 3, verset 27. L'acquisition de Canaan par les Israélites était conditionnée au jugement des Cananaïtes, et ce jugement dépendait lui-même de la justice divine qui attend toujours d'abord que le péché arrive à pleine maturité. Et troisièmement, nous avons la prédiction de l'avenir. Sans repentance, il faut bien le dire, sans repentance, il n'y a pas de salut. Impossible. Tant qu'il n'y aura pas d'humiliation devant Dieu, la nation ne connaîtra aucune bénédiction réelle ou durable. Malheur donc à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ésaïe 1, verset 4. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, l'ennemi est derrière toi, Benjamin. Osée, chapitre 5, verset 8. Israël a rejeté le bien, donc l'ennemi le poursuivra. Osée chapitre 8, verset 3. Tel est le sort réservé aux Juifs apostats qui seront foulés aux pieds. Ésaïe 5, verset 5. Ils seront déchirés par les nations. Ésaïe 30, verset 14. Toujours Ésaïe, chapitre 5, verset 25. Et Ézéchiel, chapitre 23, verset 22 et 23. Ils seront chassés loin de la face de Dieu. Jérémie, chapitre 6, verset 30. Chapitre 7, verset 15. Et chapitre 32, verset 31. Ainsi l'ont déclaré les prophètes de l'Ancien Testament. Les preuves pourraient en être multipliées par cent. telles que la chute de l'État, Jérémie 25, Ézéchiel chapitre 4, la disgrâce individuelle, Jérémie 29, verset 18, la méprise et la haine des nations, Jérémie 24, verset 9, chapitre 25, verset 18, et chapitre 26, verset 6. Les nations sont de ce fait mûres pour le jugement. Ensuite, nous avons la conversion d'Israël, enfin. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Ésaïe 8, verset 23. Sion sera racheté par le jugement. Version Darby. Ésaïe chapitre 1, verset 27. Le reste reviendra à Dieu. Ésaïe chapitre 10, verset 21. Jérémie chapitre 24, verset 7. Et Osée chapitre 3, verset 5. Et par l'apparition du Messie, il deviendra un peuple nouveau. Ésaïe chapitre 11, verset 1, chapitre 4, verset 3, chapitre 6, verset 13, et Ézéchiel chapitre 37, verset 26 à 28. Mais lorsque le Messie apparaîtra, Israël rentré dans son pays, Jérémie 16, verset 15, expérimentera sa grande repentance nationale. Zacharie, chapitre 12, verset 10 à 14, et Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Et sa nouvelle naissance spirituelle, non par sa propre énergie nationale, mais comme fruit de l'intervention de Jésus-Christ de Nazareth. Alors surviendra le miracle juif. Le peuple, maintenant impur et pécheur, sera saint et il sera transformé et si pur que même les choses les plus insignifiantes seront dédiées et consacrées au Seigneur. Et ainsi, à cette spirituelle et nationale résurrection, Israël d'entre les morts, selon Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14, Israël est lié, sa sainteté à venir, à la sainteté, sa bénédiction. Ésaïe, chapitre 60, verset 18, et chapitre 61, verset 10, et sa bénédiction, la gloire de Dieu. Ésaïe 40, verset 5, chapitre 46, verset 13. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Je répète sans citer les versets bibliques, parce que ça se comprendra mieux. Ainsi, à cette spirituelle et nationale résurrection d'Israël d'entre les morts, est liée sa sainteté à venir, à la sainteté sa bénédiction, et à sa bénédiction la gloire de Dieu. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Finalement, nous avons la conversion des nations. Les nations, elles aussi, doivent être bénies, car Dieu n'est pas le Dieu des Juifs seulement. Il est aussi des nations, voire Romains, chapitre 3, verset 29. La prophétie israélite considère les nations comme une famille, et elles auront toute part au salut messianique. Et c'est pourquoi le Seigneur détruira un jour le voile qui voile tous les peuples et la couverture qui couvre toutes les nations. Ésaïe 25, verset 7. Alors les peuples se convertiront en tant que peuple. Jérémie, chapitre 3, verset 17. Zacharie, chapitre 8, verset 20 à 22. Et notez encore Michée, chapitre 4, verset 2. Et pour la première fois dans l'histoire, il y aura des nations chrétiennes dans le sens scripturaire. L'âge présent du rejet temporaire d'Israël au retour du Christ n'a pas pour but la christianisation des peuples, mais le salut individuel d'hommes et de femmes tirés du sein de tous les peuples et par là la formation d'une église tirée d'entre les juifs et les gentils, qui veut dire les non-juifs. Colossiens, chapitre 3, verset 11. En ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ésaïe 19, verset 19, verset 23 et verset 25. En fait, la prophétie israélite offre là son caractère extrême, car l'espérance qu'elle présente n'est pas l'incorporation des païens converti à Israël, peuple de Dieu renouvelé, mais une alliance fraternelle entre Israël et les nations, et cela sur la base d'une même rédemption divine, selon Franz Delitzsch, Missionarische Weissagungen. En Malachie, chapitre 1, verset 11, Dieu dit « Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom sera grand, grand parmi les nations, et en tout lieu, l'encens sera brûlé en mon nom, et une offrande sera présentée, car mon nom sera grand parmi toutes les nations, selon la version Darby, qui est une excellente version, telle que certaines versions allemandes et anglaises. En cela, le prophète de l'Ancien Testament, avec les seules couleurs du langage vétérotestamentaire, prédit cette vérité que le Christ allait exprimer à la Samaritaine, à savoir que le Père désire des adorateurs en esprit et en vérité, offrant leur culte, non en une ville ou sur une montagne particulière, mais en quelque lieu que ce soit. Saint Jean 4, verset 21 à 24. Et c'est ainsi que Israël en son pays et les nations dans le leur feront l'expérience indispensable de la nouvelle naissance spirituelle. Psaume chapitre 87, versets 4 à 6, et que le Seigneur régnera en roi sur toute la terre, selon Zacharie, chapitre 14, verset 9, tandis que la justice et la paix gouverneront toute l'humanité. Pour terminer, disons que la conversion d'Israël et des nations s'effectuera au moment de l'apparition du Messie. Oui, c'est lui qui est la couronne et qui est l'étoile brillante de toute prophétie. Les prophètes sont les étoiles et la lune. Christ, par contre, est le soleil. De lui, tous les prophètes rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Actes chapitre 10, verset 43. Christ est le thème de l'Ancien Testament. Il l'affirme lui-même. Notez Saint Jean, chapitre 5, verset 30, et Saint Luc, chapitre 24, versets 25 à 27, et le verset 26. Et c'est encore cela qu'atteste son plus grand apôtre dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 4, et Actes, chapitre 26, versets 22 et 23. C'est donc du seul roi des Saintes Écritures que le témoignage des héros qui l'ont précédé, tire leur pleine signification. C'est dans le Nouveau Testament seul que les questions de l'Ancien trouvent toute la solution. Amen. Et chers amis, nous allons terminer, si vous le voulez bien maintenant, par la prière. Prions. Prions le Seigneur pour la paix et le salut de nos âmes et de toute la communauté. Pour tous ceux, femmes et hommes, qui servent le Seigneur de par le monde, nous te demandons de les soutenir par ton amour et pour le rassemblement de tous les chercheurs de Dieu et pour la paix du monde entier. Pour tous ceux qui peinent et qui sont accablés, pour tous les hommes qui sont vaniteux, jaloux et haineux, pour nos ennemis et nos adversaires, quels qu'ils soient, pour tous nos amis, nos bienfaiteurs, et pour tous nos proches, ainsi que pour les mourants, arrivés à leur dernier jour et à leur dernière nuit, pour tous ceux qui ne bénéficient de la prière d'intercession de personne, pour tous ceux qui ont été rejetés par les hommes, pour tous ceux que nous avons rendus tristes, pour tous ceux qui, tentés par les créatures, sont tombés dans le péché, pour tous les violents et les puissants qui ont répandu le sang et ont été impitoyables pour les démunis, que notre louange et notre adoration puissent monter vers toi durant tous les jours de notre vie. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et demain, Dieu voulant, la suite de cette série. À bientôt donc. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.